La deuxième partie de notre rencontre de ce jour avec les questions et réponses. Connaissez la règle, veuillez fermer vos téléphones et les mettre sous silencieux. Et toutes les personnes qui vont prendre la parole, je vous demanderai de bien vouloir vous présenter ainsi que l'organe de presse que vous représentez. Nous allons commencer par prendre trois questions sur la gauche. Et ensuite, nous allons aller à Goma pour prendre trois questions et nous reviendrons encore ici pour prendre trois questions sur la droite. Nous commençons donc sur la gauche. Y aurait-il des questions sur la gauche? Non? Derrière, s'il vous plaît.
Merci, Maria pour le compte de Télé7. Ma question s'adresse au colonel Prosper Basse. Nous avons suivi, on a entendu qu'on a signalé la présence de Laurent Kunda, qui est signalé à Rutshuru pour commander le M23. Est-ce que la MONUSCO peut confirmer cette information? Et la deuxième préoccupation, le M23 ont recruté les mercenaires qui sont là pour les aider. Peut-on avoir des éclaircissements là-dessus? Merci.
Merci pour vos deux questions auxquelles malheureusement je ne peux apporter aucune précision parce que concernant le recrutement de mercenaires par le M23, c'est vous qui me l'apprenez, la présence éventuelle de Laurent Kunda dans le Rutshuru, ça aussi nous ne sommes pas au courant.
Merci. D'autres questions sur la gauche? Non? Alors nous allons à Goma, nous allons prendre trois questions de Goma. Bonjour Goma, nous prenons la première question s'il vous plaît.
Ok, vas-y d'abord, parce que là, il y a...
Merci. Laurent Nyangue, de la RTNC Nord-Kivu. Quelle est la réaction de la MONUSCO face aux propos de la CENCO, la conférence des évêques congolais, vous demandant d'agir car les forces onusiennes disposent des moyens suffisants pour venir à bout avec les différentes forces négatives actives, en RDC? La réaction de la MONUSCO. Merci.
La réaction de la MONUSCO, comme vous le savez, les forces de la MONUSCO ont été renforcées et dorénavant ont la brigade d'intervention avec une mission très précise qui est une mission offensive, une mission de traquer et de détruire les groupes armés. Une fois que cette brigade sera en place, nous allons bien entendu nous atteler à cette mission. Prenons la deuxième question.
C'est Victor Bigatti pour le compte du journal Hebdo de l'Est. À quand l'opérationnalisation de la brigade d'intervention? La brigade d'intervention sera opérationnelle lorsque le M23 crée des troubles à Goma, aux alentours de Goma. Qu'en dites-vous et qu'en pensez-vous? Emiek, qu'en dites-vous?
Merci, mon colonel.
Oui, merci pour cette question. À quand l'opérationnalisation de la brigade d'intervention? Je veux dire que la brigade d'intervention est déjà sur place. À peu près 70% de ses effectifs sont déjà déployés. Et cette brigade qu'on commence à commencer et continue à mener des activités aussi bien autour de la ville de Goma que dans la ville de Goma, avec une partie du contingent tanzanien qui est déjà déployée même jusqu'au niveau de Munigi pour renforcer la position sud-africaine. La brigade, en d'autres termes, est opérationnelle déjà parce qu'elle mène des patrouilles qui entrent dans le cadre global des activités présentes et futures que cette brigade aura à mener.
Prenons une troisième question de Goma.
Oui, moi c'est Esther Sapout pour les comptes de VBRFM. On a signalé la présence des terroristes El Shabab du côté de rebelles KDM 23 et de l'ADF Nalu. Est-ce une façon pour ces terroristes de cracher sur les Nations Unies? Merci.
Moi, personnellement, je n'ai pas d'informations concernant la présence de Al Shabab. Je ne sais pas, mon colonel, auriez-vous des informations?
Moi, encore moins.
Voilà. Ok, nous revenons à Kinshasa. Nous commencerons sur la droite avec Pasteur pour la première question.
Merci pour la parole. Et Pasteur Chibangu pour le scribe. Monsieur Missi quitte définitivement la RDC. Ma question est de savoir comment procède-t-on aux Nations Unies? Il n'y a jamais eu des remises et reprises comme nous les constatons avec le départ des missiles, ou bien ils vont se concerter à New York?
Bon, je crois qu'après avoir passé 3 années en République démocratique du Congo, on ne connaît toujours pas son nom, mais son nom c'est Roger Miss, pas Missy. Ceci étant dit, je ne sais pas ce que vous entendez par remise et reprise. Il y a différentes façons de faire cela. On peut le faire à travers des documents qu'on laisse à son collègue. On peut le faire à travers une discussion quand on rencontre son collègue. Mais il y a toujours une remise et reprise. Ne vous en faites pas. Ça se fait. Et en ce qui concerne Monsieur Miss, je suis sûr qu'il a déjà laissé les notes nécessaires à son successeur. Il sera débriefé à New York. Son successeur sera briefé à New York. Et lorsqu'il arrivera ici à Kinshasa, il va encore bénéficier des notes qu'a laissées pour lui Monsieur Miss. Et en plus de cela, il y a aussi les collègues de Monsieur Miss qui sont ici sur place. Oui, deuxième question.
Merci. Kaimber Tujia. J'ai une observation et une question. L'observation, c'est d'abord les regrets de voir la MONUSCO qui n'est pas toujours en mesure de nous donner la vraie information quand on est dans les besoins. Je reviens par rapport à la question posée par la consoeur de Télé7. Des sources très crédibles depuis Rutshuru nous confirment la présence de Laurent Kunda. Il doit être dans son 40e jour aujourd'hui. Il a même organisé 2 journées de prière en soutien au M23. Il circule librement et loin de toute poursuite judiciaire rwandaise. La MONUSCO n'est pas au courant, je suis désolé. Alors la question, c'est par rapport au rapport provisoire du groupe d'experts de Nations Unies. Vous me direz qu'il n'est pas encore officiel, mais il a été fuité par un site très crédible qui suit de très près les actions de l'ONU dans le monde. Les rapports en chantier dit dédouane en quelque sorte Museveni et Blanchi Kagame, dans la mesure où il confirme qu'il n'y a aucune indication qui démontre un quelconque soutien venant de Kampala pour M23 et que le soutien rwandais envers le M23 serait en continu mais limité. Le groupe dit qu'à peine le M23 serait dans les 1500 hommes alors que M23 est en train de renforcer ses positions. Qu'est-ce que vous en dites? Pourquoi le groupe cherche à se dédire? Peut-on avoir confiance au premier rapport où le groupe est en fait en quelque sorte bousculé par la campagne médiatique entreprise par la ministre rwandaise des Affaires étrangères et surtout la présence du Rwanda au Conseil de sécurité. Merci.
Merci beaucoup. Le groupe des experts travaille sur la base des informations qu'on met à sa disposition. Et apparemment, je vois que vous avez beaucoup d'informations. Vous auriez dû, pour le bénéfice de ce groupe des experts, mettre les informations que vous avez à leur disposition. Ils vont l'utiliser. Peut-être ces informations, ils ne les ont pas. Donc s'ils ont péché, c'est pas volontairement, mais c'est par manque d'informations. Je suis disposé à vous donner leur contact pour que vous mettez à leur disposition ces informations que vous avez et je suis sûr qu'ils en feront bon usage. Concernant la première partie de votre question, encore une fois, vous semblez avoir des informations que nous n'avons pas. Et quand nous n'avons pas ces informations, nous vous disons que nous n'en avons pas. Nous n'avons pas l'habitude ici et nous ne nous sommes jamais dédiés parce que toutes les informations que nous vous donnons sont toujours vérifiées et recoupées. Nous ne nous avons jamais donné une information et revenir le lendemain pour dire « excusez-nous, elle était fausse ». Donc nous ne pouvons que vous donner des informations qui sont sûres. Nous prenons une troisième question. Oui.
Merci. Moi, c'est Flavien Sens pour les comptes de Planète Télévision. Mais c'est le porte-parole militaire des 144 évadés dans les prisons de Beni. Mathématiquement, ça a pratiquement au moins 2 pavillons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que cette opération s'est passée? Il y avait des échanges de tirs ou bien les groupes Maï Maï avaient trouvé les portes ouvertes pour que les 244 évadés. Deuxième préoccupation, monsieur le porte-parole de la MONUSCO, lors de la visite du président américain à Tanzanie, il a formulé quelques recommandations au président congolais de réformer les forces de sécurité pour la paix à l'est du pays. Quelle réaction vous avez par rapport à cette formulation? Merci. Mon colonel.
Oui, merci pour votre question qui a trait à cette évasion qu'on a constatée la semaine-là, le 1er juillet, à la prison de Béni. Effectivement, 244 prisonniers se sont évadés de la prison de Béni. D'abord, je voudrais souligner ici que la MONUSCO n'a pas la responsabilité de la sécurité des prisons en République démocratique du Congo. Par contre, nous avons une section pénitentiaire qui appuie tous les efforts du gouvernement congolais et particulièrement ceux des autorités en charge de la police nationale congolaise pour développer et renforcer les capacités de cette police. Évidemment, l'attaque a été lancée par un groupe Mai Mai très important, comparé aux effectifs qui étaient commis à la sécurité de la prison. Et ces Mai Mai sont soupçonnés être du groupe Hilaire. Les prisons n'étaient pas ouvertes, au contraire, les portes n'étaient pas ouvertes, au contraire, la porte centrale de la prison a été défoncée par ces gens qui sont venus de manière offensive pour libérer ces prisonniers. Donc c'est ce que nous pouvons vous dire là-dessus. La MONUSCO a immédiatement déployé une patrouille sur place pour prêter son concours aux forces de défense et de sécurité congolaises afin que ces évadés puissent être non seulement repris, mais aussi que ces insurgés qui ont lancé cette attaque puissent être neutralisés.
Peut-être pour ajouter quelque chose à ce que le colonel a dit, vous devez savoir que les prisons en RDC, il y a une surpopulation très remarquable. Donc, ne soyez pas étonnés du nombre de personnes qui sont échappées de ces prisons, parce que les prisons, il y a une surpopulation de ces prisons. Nous allons repartir d'abord à Goma. On va prendre encore trois questions. Goma.
C'est John Kayunyu, correspondant.
Goma, excusez-moi. Vous avez dit deuxième question, laquelle? La réaction au propos du président américain, ben écoutez, c'est le président américain a fait son commentaire. Vous pouvez peut-être vous approcher de l'ambassade des États-Unis qui vont commenter cela. Nous n'allons pas commenter les déclarations du président d'un pays membre ici. Goma.
Oui, moi c'est John Kanyunyu, je suis le correspondant de la Deutsche Welle basé à Goma. Ma question s'adresse au colonel Félix Bass. Mon colonel, vous avez parlé de l'attaque de la prison de Beni par des combattants Mai Mai, mais vous n'avez pas fait allusion à l'occupation des villages de Mamundioma et les périphéries des cités de Wicha et celles de Mbau dans le territoire de Beni par les ADF Nalu. Au moment où cette occupation a causé le déplacement des populations civiles, quelle est la situation réelle qui prévaut sur le terrain et est-ce qu'il y a des inquiétudes pour Beniville? Merci.
Merci de toutes les façons. Vous savez que depuis un certain temps, et je dirais même depuis quelques mois, nous avons remarqué et dénoncé une forte concentration d'éléments Mai Mai autour, aux environs de la ville de Oicha, mais aussi aux environs de la ville de Beni. Et vous n'êtes pas sans ignorer non plus que des initiatives avaient été menées par le gouverneur de la province du Nord Kivu en compagnie de certains dignitaires de cette province-là pour que des pourparlers, en tout cas des réunions, ont été tenues à Oicha pour ramener un peu tous les groupes armés dans le giron de la négociation afin que la paix puisse être restaurée. Mais il faut préciser que Beni n'est pas occupé par les ADF Nalu, encore moins Oicha. C'est vrai que les ADF Nalu évoluent dans toute cette zone-là, dans le Grand Nord et un peu au nord de Beni jusqu'à Erengeti, tout ça c'est une zone dominée par les ADF Nalu, mais je peux vous dire que les ADF Nalu n'ont pas encore lancé une attaque contre Beniville pour l'occuper ou Oicha, comme vous venez de le mentionner. Et il ne faut pas non plus négliger le déploiement et la présence des forces gouvernementales qui sont dans cette zone-là et qui sont prêtes en collaboration avec la MONUSCO, lorsque le moment se fera sentir, de pouvoir défendre cette ville-là comme il est de notre devoir. Donc, Beni n'est pas occupé, Oicha n'est pas occupé, toute cette zone pullule, bien sûr, de Mai Mai et d'autres miliciens, notamment d'autres groupes armés dont l'ADF Nalu, mais c'est ce que je peux vous dire là-dessus.
Merci. Une deuxième question de Goma.
Oui, je suis Alain Wandimoy, correspondant des CIF à Grand Lac à Goma. Ma question s'adresse au colonel Bass. Vous avez parlé du positionnement des troupes de la force d'intervention juste à Monigi, mais nos sources nous renseignent que le M23 renforcerait ses troupes et il est en train d'avancer vers les positions de Monigi, de la MONUSCO. Est-ce que c'est une provocation pour la MONUSCO? Est-ce que vous attendez que ces éléments M23 puissent attaquer les positions de la MONUSCO et du FRDC pour intervenir pendant que c'est une provocation qui a fait déplacer des populations? Quelle est la position de la MONUSCO face à ce positionnement des M23?
Merci.
Merci. Votre question est très longue, mais si je peux la résumer à ceci, c'est vrai, nous avons déployé nos troupes jusqu'à Kibati, aussi bien Monigi Est et Monigi Ouest, et nous sommes présents dans cette zone-là, et nous avons aussi une unité au niveau de la colline nord de Monigi où nous avons déployé des éléments. Maintenant, bien sûr que la brigade d'intervention qui est sur place est en train de mener ses activités, et à ce titre, nous avons poussé un pion jusqu'à Monigi pour renforcer l'équipe qui est déjà sur place et qui est en train d'assurer la sécurité de toute cette zone-là. Parce que notre positionnement au niveau de Monigi est bien stratégique. N'oubliez pas que Monigi était occupé pendant longtemps par les M23 parce que c'est des collines à partir desquelles on surplombe la ville de Goma. C'est des positions extrêmement stratégiques que nous avons récupérées une fois que les combats ont éclaté entre Bosco Taganda, les éléments de Bosco Taganda et ceux de Sultani Makenga, et depuis lors nous y sommes, nous y restons et nous tenons ces positions pour mieux sécuriser la ville de Goma. Donc ce n'est pas une provocation, parce que provocation c'est aller au-delà des limites qui sont établies, et ces limites vous les connaissez, c'est des limites qui sont là depuis très longtemps, et nous continuons donc à tenir ces positions, à interdire au M23 toute incursion ou toute tentative de manœuvre vers la ville de Goma ou vers Sake, en collaboration avec les FRDC pour une meilleure protection des populations civiles.
Merci. Encore une question de Goma.
Okay, vas-y. Je m'appelle Cosmas Mungazi Kakola de Sifia Grand Lac. La malheureuse expérience de novembre dernier n'arrivera pas à la ville de Goma, a déclaré hier aux antennes de la radio Okapi le porte-parole militaire de la MONUSCO à Goma. Il y a 6P, Félix Vasse avait déclaré aussi en novembre dernier que la ville de Goma ne tombera pas. Une fois Goma réattaquée, une fois Goma repris par les forces du M23, à qui nous allons poser ces questions? Parce que nous avons, si c'est à vous, la MONUSCO, vous ne nous direz plus que les journalistes congolais ne connaissent pas poser les questions aux personnes concernées. Merci.
La question c'est quoi? On a écouté votre commentaire, mais la question c'est quoi? Laissez votre commentaire. On a écouté le commentaire. La question c'est quoi?
On va aller, vas-y mon cher, vas-y, pose ta question. Toi là,
Okay. Vous n'avez pas de question alors?
Les Nations Unies dans leur rapport.
Ok.
Je vais reprendre, je réponds la question.
Non, la question seulement, laissez votre commentaire.
Aujourd'hui, le porte-parole militaire de la MONUSCO à Goma a déclaré que la situation dans les territoires contrôlés par les M23 est sous contrôle. C'est par rapport au mouvement de la population qui fouillait déjà les positions, l'avancée du M23 vers la ville de Goma. Et en novembre dernier, Félix Basse avait aussi déclaré que la ville de Goma ne tombera pas, répondant aux questions des journalistes de Kinshasa qui lui avaient posé la question de savoir pourquoi Goma a été tombée. Il leur avait répondu que les journalistes congolais ne savaient pas poser leurs questions aux personnes concernées. Une fois la ville de Goma tombée ou rattaquée par les forces du M23, si c'est à vous que nous allons vous poser ces questions, vous ne nous direz plus que vous, les journalistes congolais, vous ne savez pas poser vos questions. C'est ça la question.
Bon, vous n'avez toujours pas posé de questions, mais je vais vous répondre. Ok? Non, 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 mon colonel. C'est vrai, le colonel Bass a dit la ville de Goma ne tombera pas. Virgule. Pas point. Virgule. Le reste de la phrase. Si le dispositif en place tient, un dispositif mis en place avec les FARDC. Donc, il faut le citer entièrement. C'était ça la condition. Le dispositif mis en place avec les FARDC n'a pas tenu. Donc, la ville de Goma est tombée. Oh. Okay. Mon colonel, oui, si vous voulez ajouter quelque chose.
Je voudrais juste rappeler quelque chose, enfin rajouter quelque chose, parce que je pense qu'il y a une confusion totale. Que je note chez mon confrère de Goma, parce que je n'ai jamais dit aux journalistes congolais qu'ils ne savaient pas poser leurs questions. Et je ne sais pas si vous étiez à Goma quand nous sommes venus à Goma avec plus d'une dizaine de journalistes. Et je pense que nous avions pris le soin d'amener les journalistes partout pour qu'ils voient ce que nous faisions. Je pense qu'il y en a qui sont dans cette salle-là. Et tout le monde est arrivé à la même conclusion que nous. Quand ils sont revenus, des articles ont été faits pour louer la solidité du dispositif qui avait été mis en place. Le reste, M. Mounouba, il a dit, je ne rentre pas dans ce commentaire-là, parce que je vous ai expliqué dans les détails le scénario de tout ce qui s'est passé depuis le 15, lorsque le M23 a initié sa première attaque contre les forces gouvernementales, et au cours de cette attaque, elle avait pris une sacrée raclée jusqu'à ce que le 17 relance ces autres attaques qui ont conduit à la capture de Goma.
Ceci étant dit, je pense que au lieu de flageller en permanence la MONUSCO, vous êtes là-bas à Goma, je vous encouragerais à vous rapprocher aussi des FARDC et autres services de sécurité sur place pour prendre des informations sur ce qui se fait sur le terrain par les forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que n'espérez pas que ça va toujours être de la responsabilité de la MONUSCO de défendre Goma ou de défendre la RDC. Nous revenons à Kinshasa. Sur la droite, nous allons... Oui.
La gauche n'avait pas de questions. Oui, c'est Roger Marley Lukunga pour le journal Le Paris. Le rapport sécuritaire fait état des nombreuses désertions dans les rangs des mouvements M23. En clair, 283 rebelles du M23 se sont rendus aux forces de la MONUSCO depuis février.
Oui.
289. Voilà. Est-ce que ceux-là qui se rendent sont aussi l'objet des interrogatoires, des routines de la part de la MONUSCO? Car généralement, à travers le monde, toutes les unités qui se rendent sont d'abord soumises à des interrogatoires ou à des verbalisations. Si oui, il y a des interrogatoires, que disent-ils ceux qui se rendent comme aveux sur leurs intentions?
Je crois que le mot est assez fort. Nous ne soumettons personne à des interrogatoires. Il y a un debriefing, je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, mais ce n'est pas des interrogatoires, parce que ça donne l'impression qu'on est en train de torturer les gens là. Nous ne le faisons pas. Effectivement, toutes les personnes qui passent sont mises à la disposition de DDR ou de DD3R, ça dépend, où ils répondent à un certain nombre de questions avant qu'ils ne soient mis dans le processus administratif, soit pour leur transfert dans leur pays d'origine, soit pour leur prise en charge localement. Maintenant, si vous voulez savoir que disent les informations que nous recevons, je pense que ce n'est ni l'endroit ni bienvenue, mais ce sont des informations qui sont utilisées à bon escient. Nous prenons... Oui? Allez-y, oui, RTNC.
Merci, c'est Venant, vous dit ça pour la RTNC. Ma question s'adresse à M. Sylvestre. Situation humanitaire, le mois, disons, la semaine passée, vous avez lancé un appel, en fait, la communauté humanitaire, Vous aviez besoin d'environ 2 millions de dollars pour la situation préoccupante, la situation sanitaire dans les Katanga, plus précisément dans le Nord Katanga. Qu'en est-il au juste? Parce que vous n'avez pas pris la parole pour nous briefer sur cette situation humanitaire. Y a-t-il une lueur d'espoir? Ça évolue? À vous de nous le dire. Merci.
La situation qui vous a été expliquée, c'était en fait le résultat d'une évaluation qui a été menée par rapport aux besoins d'intervention contre l'épidémie de choléra. La province du Katanga, depuis un certain temps, est la province qui rapporte le plus de cas de choléra pour plusieurs raisons. L'évaluation qui a été faite donnait en fait un gap donc d'environ d'un peu plus d'un million, 1,9 million de dollars américains dont les partenaires ont besoin pour la sensibilisation et les interventions dans le domaine d'eau, hygiène et assainissement. L'appel a été lancé, il suit son cours. Si en fin de parcours l'enveloppe est débloquée, on vous le dira, mais c'est un besoin réel pour arrêter l'expansion des choléras dans le Katanga.
Merci, nous passons sur la gauche. Africa TV.
Le Red Mandal à Africa Télévision, ma question s'adresse aux porte-parole militaires. Vous avez dit tantôt que la brigade d'intervention, elle est opérationnelle dans le Nord Kivu, et vous avez dit que cette brigade mène des patrouilles. La brigade a un mandat offensif selon la résolution de l'ONU 2098, si je ne me trompe. Mais lorsque vous parlez des patrouilles, est-ce que c'est ce que nous attendons de cette brigade? Quel est exactement son impact sur le terrain? Parce que les patrouilles, les casques bleus, les font en RDC depuis des années. Et la deuxième question, c'est, vous avez dit tantôt qu'il y a eu mutinerie à Makala. Nous aimerions savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement à la prison centrale de Makala. Vous parlez de la mutinerie, y a-t-il eu des morts? Est-ce que ces détenus possédaient des armes, armes blanches ou je ne sais pas lequel?
Merci madame, je commencerai par la deuxième question. Je suis quand même désagréablement surpris de savoir que vous êtes à Kinshasa et que vous n'avez pas ces informations-là. D'abord parce que je crois que dans ma présentation, j'ai été clair, j'ai bien dit qu'il n'y avait pas eu de victimes et que la situation avait été reprise sous contrôle des forces de défense et de sécurité congolaises. Et selon les informations que nous avons reçues, c'est que cette mutinerie est survenue suite à une fouille, une opération de fouille qui avait été décidée justement par les autorités carcérales de Makala pour vérifier éventuellement s'il n'y avait pas d'armes, que ce soit d'armes blanches ou en fait, ces fouilles, c'est des opérations de routine. Donc, ce qui a déclenché cet incident-là, je ne peux pas vous le dire avec précision, mais toujours est-il qu'il y a eu une opposition à cette activité que les autorités pénitentiaires voulaient mener et que les prisonniers se sont mutinés contre cette décision-là. Mais la situation a été contrôlée très rapidement par un renfort de troupes FRDC et de la police nationale congolaise. Et aujourd'hui, la situation est en train d'être suivie de très près par la MONUSCO. Encore une fois, comme je dis, nous avons déployé une patrouille là-bas aussi pour nous enquérir ou en tout cas collecter le maximum d'informations sur cet incident-là et nous continuons à suivre de très près.
La première question.
Oui,
concernant. Toujours des patrouilles.
Ah ok, oui. Voilà. Donc les patrouilles, vous savez, c'est d'abord un mode d'action utilisé dans l'armée. Ça permet non seulement de dominer le terrain, mais d'avoir une présence effective sur le terrain, de recueillir des informations, mais aussi il y a des patrouilles offensives qui sont destinées à engager l'ennemi en cas de rencontre fortuite. Mais nous avons intégré justement ces patrouilles dans le mécanisme global de protection des populations civiles civile, notamment par notre présence qui est assez dissuasive sur le terrain, parce que lorsque nous patrouillons partout, notre présence est effective, les populations sont rassurées, les groupes armés cette activité est dissuasive pour les groupes armés. Donc je pense que d'abord, c'est une activité militaire, c'est une activité de sécurisation des populations civiles qui entre dans le cadre des opérations que la brigade d'intervention, et je ne vois pas d'ailleurs pourquoi on se focalise seulement sur la brigade d'intervention, parce que la brigade d'intervention est une entité qui entre dans la composition globale d'une force globale de la MONUSCO. Donc c'est toute cette force ensemble qui va travailler à protéger les populations civiles. Je pense que c'est ce qu'il faudra retenir de cette affaire-là, parce que ce soit dans ou autour de Goma, les patrouilles se font, les populations sont rassurées et les groupes armés se tiennent au loin, justement, de ces agglomérations urbaines. Donc voilà ce que nous pouvons vous dire concernant cette patrouille, mais la brigade d'intervention fera son travail, et ceci entre déjà dans le cadre de son travail. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un début d'opérationnalisation de cette brigade d'intervention.
Nous voyons une main derrière.
Tamwe Stanislas, pour le compte du potentiel online.com. Mon colonel, j'allais juste poser aussi une question en rapport avec la seconde question de ma concierge tout à l'heure, concernant l'incident qui s'est produit à la prison centrale de Makala hier. Selon une source policière contactée sur place, il y aurait un militaire qui a été abattu à bout portant sur place. Et ce même policier-là qui nous a donné cette information, c'est lui qui a été chargé pour évacuer ses corps. Et selon même les informations de la garde de la prison, il y aurait encore beaucoup plusieurs blessés. Mais dire qu'il n'y a pas de victimes, peut-être ça nous étonnerait, d'autant plus qu'il y avait la police MONUSCO qui était aussi sur place. On aimerait peut-être qu'il y ait un agent de la police MONUSCO pour nous confirmer cette information. Aussi, une autre préoccupation, ce n'est pas une question, mais c'est une suggestion. Il y a un temps, l'ONU a établi en RDC les cellules d'appui aux procédures judiciaires. Cette structure a une mission, des objectifs et abat aussi certains travaux ici sur place en République démocratique du Congo. Mais lors des conférences hebdomadaires de la MONUSCO, on ne voit pas vraiment le rapport ou soit un compte rendu, un point sur le travail qu'est en train de fournir cette structure en République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs une première au monde. Nous voudrions peut-être à la longue que le bureau conjoint aux droits de l'homme de la MONUSCO puisse quand même organiser ou mandater quelqu'un pour nous donner de plus amples précisions sur l'évolution ou le travail qui est en train d'abattre cette structure en République démocratique du Congo. Merci.
Je prendrai la deuxième question et le collègue prendra la première. N'attendez pas à avoir toutes les réponses lors de la conférence de presse. Si vous êtes intéressé par un sujet particulier, par exemple, la cellule d'appui aux procédures judiciaires qui est gérée par la division des droits de l'homme, allez vers la division des droits de l'homme. Et si vous ne savez pas qui contacter, venez vers nous et nous vous mettrons en contact avec ça. Mais n'attendez pas à ce que vous ayez toutes les informations lors de cette conférence de presse, parce que les informations sont très sélectives. Nous n'avons que 45 minutes et nous ne pouvons pas parler de tous les sujets. À ce propos, là, derrière moi, il est de la division des droits de l'homme. Pour vous rapprocher de lui, c'est notre collègue Lucas. Mon colonel.
Oui, merci. Avant de passer à la première question, je voudrais dire à mon collègue que je ne partage pas son point de vue, dans la mesure où des rapports vous ont été faits ici, en l'occurrence par le général Wafi lui-même, qui a fait tout le point de la situation, de l'appui que la MONUSCO apporte au secteur judiciaire ou au secteur de la police nationale congolaise. Et je crois que des documents avaient été mis à vos dispositions et que même la promesse d'une rencontre spéciale pour décliner toutes les actions, tout le soutien que la MONUSCO apporte dans ce domaine-là aux autorités congolaises. Ça, c'était une précision. Maintenant, concernant les informations que vous détenez et que vous qualifiez de sûres, je pense que en vous rapprochant de la police nationale congolaise, vous auriez pu nous-mêmes nous faire partager les connaissances ou en tout cas les informations que vous avez. Ce que nous savons, c'est que nous vous livrons ici des informations qui sont sûres. Quand il y a une procédure d'enquête qui est enclenchée pour déterminer avec exactitude ce qui s'est passé, nous préférons attendre que la conclusion de cette initiative nous soit rapportée pour pouvoir les mettre à votre disposition. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un mort. On en a entendu, les investigations se poursuivent, mais vous pouvez vous rapprocher de la police nationale congolaise parce que la MONUSCO ne gère pas la prison de Makala.
Ok, nous prenons une dernière question de Goma.
Ok, vas-y.
Ok, moi c'est Jean-Baptiste, je suis de la RACO FM Rutshuru. Je voudrais savoir ce que la position de la MONUSCO par rapport aux différents rapports, donc la contribution de la MONUSCO par rapport aux rapports qui sont produits par des experts des Nations Unies. Et je prends seulement un élément. Le dernier rapport fait état d'une collaboration entre FARDC et FDLR et minimise l'implication du Rwanda et de l'Ouganda aux côtés du M23. Quelle est la contribution réelle de la MONUSCO dans l'élaboration de ces rapports?
Le groupe des experts relève du comité des sanctions. Il n'a absolument rien à voir avec la MONUSCO. Bien entendu, lorsqu'ils arrivent ici et ils ont besoin d'un soutien logistique, nous les transportons, nous leur donnons des bureaux pour s'asseoir et travailler, faire leurs rapports, etc. Mais ils n'ont absolument rien à voir avec la MONUSCO. Par conséquent, si vous avez des remarques à faire sur leur travail, il faudra que vous vous rapprochiez d'eux et que vous leur posiez cette question parce que nous ne pouvons pas parler en leur lieu et place. Nous allons prendre deux dernières questions à Kinshasa, une à gauche et une à droite. Monsieur Special Report.
Merci, c'est Isaac Ngwenza pour Special Report. Il n'y a plus de temps, je vais plutôt directement à la question. Je pose la question au colonel Bass. La résolution 2098 donne mandat à la brigade d'intervention de traquer les forces négatives. Je veux savoir, cette opération prendra exactement combien de temps? Quel est le timing de ces opérations? Ça prendra 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans? Merci.
Je recadre un peu votre question. Il faudra savoir que la résolution 2098 qui a créé la brigade d'intervention a créé cette unité spéciale au sein de la MONUSCO pour une période de 1 an, donc à partir du mois de mars. Et je relève aussi au passage que cette même résolution aussi souligne ou en tout cas relève de manière précise quelles sont les responsabilités du gouvernement congolais dans la mise en place rapide d'une force de réaction rapide qui pourra prendre le relais de cette brigade d'intervention. Donc, ça veut dire que pour le moment, nous déployons cette brigade. Nous avons un agenda ou un chronogramme bien précis que nous sommes en train de dérouler. Mais je rappelle aussi la responsabilité qui est liée à la création de cette brigade d'intervention qui est ponctuelle, qui va être utilisée au cas par cas, mais qui aura une durée de vie parce que la République démocratique du Congo a la responsabilité, dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, de mettre en place une unité spéciale ayant des capacités opérationnelles optimales pour prendre en compte ou remplacer cette brigade d'intervention.
Une dame sur la gauche.
Ma question, Judith Carle, APA, Agence Presse Associée. Ma question s'adresse au colonel Bass toujours. Pourquoi dans le territoire de Rutshuru, les exaltations persistent? Les exactions persistent. Est-ce que la MONUSCO ne peut pas améliorer sa façon d'agir pour mettre fin à tous ces actes inciviques sur terrain?
Vous avez parfaitement raison, madame, de vous inquiéter de la situation qui se passe dans le Rutshuru, parce que vous savez bien que le Rutshuru est sous le contrôle du M23, qui a mis une administration de facto, et qui administre ce territoire-là. La MONUSCO est présente. Je pense que ce matin, d'ailleurs, je vous ai donné un exemple très simple au cours duquel nous sommes intervenus dans le cadre de notre mandat, dans le cadre de la protection des populations civiles, pour prendre en compte une menace que les M23 faisaient courir. Au cours de cette opération, d'ailleurs, nous avons arrêté un capitaine du M23 qui était en train de piller les maisons avec d'autres camarades qui ont pu prendre la fuite. Donc, le modus operandi de la MONUSCO, justement, a peut-être montré dans le passé certaines limites. C'est pour ça que des mesures correctives ont été apportées en apportant un outil additionnel qui est cette brigade d'intervention qui pourra, avec le concours des FRDC, parce que je suis tout le temps surpris d'entendre mes collègues ici parler, faire référence à la force de la MONUSCO, faire référence à la brigade d'intervention, mais jamais à l'armée congolaise qui est pourtant sur le terrain, qui fait du bon travail. Donc, je pense que c'est en association avec ces gens-là et avec le concours, comme je le répète aussi, de la presse, parce que votre responsabilité, c'est d'aller dans le rutshuru et de dénoncer ce que nous faisons tous les jours ici. Donc, je pense que tout le monde, la contribution de tout le monde est attendue et nos efforts mis en commun, nous pourrons mieux assurer la protection des populations civiles pour lesquelles nous sommes là.
Merci, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à ceux qui nous ont suivis sur Internet ou sur les différentes stations de Radio Okapi. Rendez-vous la semaine prochaine.